Bonjour et bienvenue à toutes et à tous.
Bonjour.
Aujourd'hui, on va se pencher sur un concept qui redessine un peu les contours de l'entreprise en France, la société à mission.
Oui.
D'un côté, on a une promesse, celle d'un capitalisme plus responsable, et de l'autre, des tensions bien réelles avec la performance financière.
Tout à fait.
Et pour guider notre analyse, on s'appuie sur un dossier très complet de la plateforme lesclésdumanagement.com. Notre mission, si on peut dire, c'est de décrypter ce statut né de la loi Pacte en 2019. Alors, révolution silencieuse ou simple habillage marketing?
Pour répondre, je crois qu'il faut commencer par le cas qui a cristallisé toutes les contradictions de ce modèle. L'affaire Danone.
Ah, l'affaire Danone. Un cas d'école.
Exactement. En juin 2020, l'entreprise devient la toute première du CAC 40 à adopter ce statut. Et avec un vote quasi unanime, 99,4% de ses actionnaires.
Incroyable.
Et pourtant, 9 mois plus tard, son PDG, Emmanuel Faber, l'architecte de cette transformation, il est évincé, sous la pression de fonds activistes. C'est ce paradoxe qui va nous servir de point de départ.
Alors, déconstruisons cette histoire. Emmanuel Faber, PDG depuis 2017, portait une vision forte, apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre. C'était même inscrit dans les statuts.
Oui, mais l'euphorie a été...
De très courte durée.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Dès l'automne 2020, les signaux d'alerte s'accumulent. Il y a des démissions au comité exécutif, un plan de réorganisation interne qui sème le trouble et surtout...
Les résultats financiers. Ils sont en berne. Le cours de l'action a décroché de 27% sur l'année.
De 27%, hein.
Alors que, dans le même temps, son concurrent Nestlé progressait de 6%.
Ah ouais. Là, l'écart fait mal. Et c'est là qu'entrent en scène les fonds activistes.
Bluebell Capital et Artisan Partners, oui, ils détiennent ensemble moins de 5% du capital, mais ils lancent une campagne médiatique intense.
Pour obtenir le départ d'Emmanuel Faber.
Exactement. Et en mars 2021, ils obtiennent gain de cause. Le conseil d'administration l'évince.
C'est fou.
Et ce que révèle cette affaire, comme le souligne très bien le professeur Pierre-Yves Gomez, c'est que la mission en soi n'était pas le problème principal.
Ah non.
Non. Elle a servi de catalyseur, de prétexte à des tensions internes et des difficultés opérationnelles qui étaient bien réelles. Une étude montre même que les entreprises socialement responsables sont 2 fois plus ciblées par les fonds activistes.
Pourquoi ?
Parce qu'ils y voient un signal de non-maximisation des profits à court terme.
D'accord. Alors, si on devait résumer, quels sont les grands enseignements de ce cas Danone ?
On peut en retenir 4. Le premier, c'est que la mission ne protège ni le dirigeant, ni l'entreprise contre la pression des actionnaires. C'est pas un bouclier.
Ça, c'est clair. Leçon numéro 1. Et la deuxième ?
Deuxièmement, la mission exige un alignement interne parfait, ce qui manifestement n'était pas le cas chez Danone.
Logique. Troisièmement ?
Elle s'inscrit dans un temps long. C'est une vision sur des années. Et ça, c'est en totale asymétrie avec l'horizon de quelques mois des fonds activistes.
Le choc des temporalités.
C'est ça. Et enfin, le point le plus fascinant. Malgré l'éviction de son architecte, Danone est resté société à mission.
Ah oui, c'est vrai.
Le statut a survécu à l'homme, ce qui suggère peut-être une certaine robustesse du modèle.
Bon, cette affaire est passionnante, mais entrons maintenant dans le vif du sujet. Concrètement, qu'est-ce que c'est juridiquement une société à mission ?
Alors, c'est une qualité. Ce n'est pas une nouvelle forme d'entreprise. C'est une qualité qui a été introduite par la loi Pacte en 2019. Et pour l'obtenir, une société doit remplir 5 conditions.
5 conditions. La première ?
D'abord, inscrire une raison d'être dans ses statuts. Et puis, définir des objectifs sociaux et environnementaux qui en découlent.
Ok, une raison d'être et des objectifs. Ensuite ?
Troisièmement, créer un comité de mission pour suivre ses objectifs. Quatrièmement, faire vérifier l'exécution par un organisme tiers indépendant, un OTI.
Un OTI, c'est une sorte d'auditeur externe de la mission, si je comprends bien.
C'est exactement ça. Et enfin, dernière étape, déclarer cette qualité au greffe.
D'accord. C'est un cadre assez précis, en fait. Et pourquoi les entreprises s'élancent-elles dans cette démarche ? Quelles sont les motivations ?
Elles sont multiples. Le dossier les regroupe en 4 grands registres. Le premier est stratégique.
Stratégique, c'est-à-dire ?
Donner un cap de long terme, se différencier de la concurrence.
D'accord. La deuxième motivation ?
La gouvernance. C'est une façon de sanctuariser les valeurs de l'entreprise et de rééquilibrer un peu le pouvoir face aux actionnaires purement financiers.
Intéressant. Ensuite, il y a l'aspect organisationnel, j'imagine.
Oui, pour fédérer les salariés, attirer les talents qui cherchent du sens et puis stimuler l'innovation interne.
Et le dernier point, c'est sans doute la réputation. Éviter le greenwashing.
Voilà. Renforcer la marque, la crédibilité des engagements RSE, justement grâce à ce fameux contrôle externe de l'OTI.
Et on voit que ça prend, hein. On est passé de 124 sociétés à mission fin 2020 à près de 2000 fin 2024. Ça représente plus d'un million de salariés. C'est un vrai engouement.
Oui, mais la grande question reste. Est-ce que cet engagement est compatible avec la performance économique? Alors, les études disponibles suggèrent que oui, même s'il faut bien sûr rester prudent.
Vous avez des chiffres?
Oui, une étude d'Ernst & Young montre que 85% des entreprises avec une raison d'être ont vu leur chiffre d'affaires augmenter.
85%. Et pour les autres?
Contre 58% pour les autres.
Ah oui, l'écart est significatif.
Une autre, de France Stratégie, chiffre même le gain de performance économique moyen à 13% pour les entreprises engagées dans une démarche RSE.
13%, c'est énorme!
Et enfin, une étude sur les entreprises certifiées B Corp, un label assez proche, montre une meilleure résilience en temps de crise. Un taux de survie supérieur de 5,3 points.
Les chiffres sont clairs. Mais la corrélation n'est pas forcément la causalité. Est-ce que ce n'est pas simplement que ces entreprises étaient déjà mieux gérées avant de franchir le pas?
C'est la nuance essentielle, et vous avez raison de la souligner. Ces entreprises sont souvent plus jeunes, plus innovantes. Le statut vient, en quelque sorte, amplifier une dynamique qui existe déjà, plus qu'il ne la crée.
D'accord.
Et le cas Danone est toujours là pour nous rappeler que la mission ne dispense jamais, jamais de l'excellence opérationnelle.
Absolument, mais les chiffres montrent quand même que l'engagement n'est pas un frein à la performance, il peut même y contribuer.
Oui, clairement.
Et là, on touche peut-être au cœur de la véritable innovation. Ce statut ne se contente pas d'afficher une intention, il modifie la structure du pouvoir dans l'entreprise, c'est bien ça?
Ah, c'est le point fondamental. On passe d'une gouvernance que l'on pourrait qualifier de bipolaire entre la direction et les actionnaires...
à une gouvernance triangulaire, exactement, avec l'arrivée d'un troisième pôle, le comité de mission. Et ce comité, quel est son rôle?
C'est un organe de contrôle et d'interpellation qui est distinct de la direction et qui doit comprendre au moins un salarié. Effet notable, près des deux tiers de ces comités intègrent des membres externes.
Des membres externes, comme des experts, des représentants de la société civile,
oui,
pour garantir un regard objectif. KPMG France, par exemple, a un comité de 8 membres, dont 6 personnalités externes.
Ça change complètement la donne, en fait. L'entreprise ne rend plus de compte uniquement à ses actionnaires.
Elle devient, en théorie, un collectif de parties prenantes. De plus, la responsabilité des dirigeants est juridiquement engagée. Un manquement à la mission, constaté par l'OTI, peut entraîner le retrait du statut.
La promesse devient une obligation.
Voilà. Mais si on revient à Danone, ce contre-pouvoir a quand même ses limites. Le comité de mission n'a rien pu faire face aux actionnaires.
C'est la tension centrale du dispositif que pointe l'économiste Olivier Favréau. La mission vient s'ajouter à l'objectif permanent de satisfaire les actionnaires financièrement. Elle ne le remplace pas.
Le pouvoir de l'Assemblée générale reste souverain.
Toujours. La gouvernance est donc rééquilibrée, oui, mais pas renversée.
Alors au final, que retenir de cette analyse approfondie? La société à mission, c'est bien plus qu'un effet de mode.
Ah ça, oui.
C'est un cadre juridique robuste, en pleine expansion, qui impose une nouvelle forme de gouvernance. Plus ouverte, plus responsable.
Tout à fait. Et les données suggèrent qu'elle est compatible avec la performance, voire qu'elle la favorise.
Cependant.
Cependant, l'affaire Danone a montré que ce n'est pas un bouclier magique contre les logiques de marché et la pression actionnariale. La tension entre le temps long de la mission et le temps court de la finance, elle, reste entière.
Et pourtant, l'aspiration des gens est là. Le baromètre 2024 de l'Observatoire des sociétés à mission indique que 79% des salariés français seraient intéressés à l'idée de travailler dans une telle entreprise.
Le chiffre est énorme.
La conclusion du dossier est très parlante, je trouve. La société à mission est une boussole, pas un bouclier. Mais une boussole n'est utile que si tout l'équipage est d'accord sur le cap.
C'est une belle image. Et ça laisse une question en suspens, une question pour l'avenir. Comment aligner durablement toutes les parties prenantes d'une entreprise, y compris ses investisseurs, sur une vision de long terme, dans un monde qui valorise avant tout les résultats immédiats? C'est tout l'enjeu.
Et pour celles et ceux qui souhaiteraient explorer davantage ces questions, nous rappelons que notre discussion s'est nourrie de l'excellent dossier de Gérard l'écrivain, qui est disponible sur le site lesclésdumanagement.com.